OK. Dans l'attente du point de presse du premier ministre François Legault, Julie-Christine Gagnon vient me rejoindre. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, tu as le bilan d'aujourd'hui.
Oui.
C'est quoi, 74?
Oui, 74 nouveaux décès de COVID-19 et 563 nouveaux cas. Donc, plus de 4300 personnes qui ont maintenant perdu la vie parmi 49 700 personnes qui ont contracté le virus. On parle d'une diminution des hospitalisations qui se poursuit. Les chiffres sont maintenant publiés là, à 11 heures.
Oui.
Même si un point de presse, là, on a
à
décidé
13 heures.
De faire différemment là, depuis hier du côté du gouvernement. Donc, voilà les chiffres qui sont divulgués un peu plus tôt.
Très bien. Le premier ministre a tweeté. Hein?
Oui. Et encore une fois, là, on pense aux préposés. Il va comme ça, ça va comme suit. Si on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu ce printemps dans les CHSLD, on a besoin d'avoir plus d'employés formés. Mm-hmm. Si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, engagez-vous. C'est une voie d'avenir.
En passant, vous avez été plusieurs hier à répondre à mon appel. Je vous ai demandé de m'écrire là pour me dire si ça vous intéressait. Et vous avez été quand même assez nombreux à le faire. Et je vous le dis, là, on essaie d'entrer en contact avec certains d'entre vous. Idéalement, demain, je ferai quelques petites entrevues avec quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, qui m'avaient écrit pour me dire, moi, ça me tente, là. Il y en a un, notamment, il travaille chez Bombardier. Il dit, garde, là, moi, là, l'avenir de l'aéronautique, ça m'inquiète un peu, puis j'aurais le goût d'aller aider nos aînés. Fait qu'on va essayer de vous retrouver pour certains d'entre vous, là. On vous laisse des messages, des fois, dans votre boîte vocale. Rappelez-nous. Puis on va, demain, peut-être, faire quelques entrevues avec quelques-uns d'entre vous. Voilà. Hein? C'est bien. C'est bien.
Oui, c'est bien.
Je te le dis, les gens, Julie-Christine, c'est intéressant. Ça a suscité un certain intérêt, l'appel du premier ministre.
Là. L'opération Charme, là, on l'espère. Il faut trouver 10 000 personnes, c'est quand même pas rien.
Voilà.
D'ailleurs, aujourd'hui, le ministre Simon-Jolin Barrette a aussi fait appel donc à un nouveau programme pour aller chercher 550 préposés aux bénéficiaires par la voie de l'immigration. Donc, lui dit que depuis 2013, le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés a permis de sélectionner seulement 115 préposés aux bénéficiaires, ce qui n'est pas suffisant. Mm-hmm. Donc, il a présenté aujourd'hui un projet pilote pour recruter 550 préposés aux bénéficiaires à l'étranger.
Par l'entremise du projet Expérience Québec, le fameux PEC, c'est
exactement.
Ça?
Exactement.
Okay.
Le ministre veut procéder rapidement, a déjà entrepris des missions de recrutement virtuelles à l'étranger pour identifier des candidats potentiels à court terme. Idéalement, les recrues devront avoir 2 années d'expérience équivalente à celle d'un préposé acquise dans leur pays d'origine, devront s'engager à travailler pendant au moins 2 ans. Dans un CHSLD. Je laisse entendre le ministre Simon-Jolin Barrette.
Ce qu'on veut, c'est ajouter des gens qui vont venir travailler comme préposés de bénéficiaires. Donc, le programme pilote s'adresse à des personnes immigrantes qui sont encore dans leur pays d'origine. Pour ce qui est des demandeurs d'asile actuellement, le premier ministre a mentionné qu'on allait évaluer les dossiers et c'est ce qu'on est présentement en train de faire. On va regarder ça avec le gouvernement fédéral pour régulariser leur statut.
OK, donc c'était Simon-Jolin Barrette. Mais ça, c'est une bonne idée d'utiliser l'immigration pour combler une partie de nos besoins dans les CHSLD. Très bonne idée. Mais il y a une grosse compétition internationale, hein, Julie-Christine. On en veut des préposés aux bénéficiaires, nous aussi, mais on n'est pas les seuls. Alors, on se les arrache. Alors, mais c'est très avantageux parce que tu t'en viens ici, tu travailles pendant 2 ans, c'est ce que je comprends. Et là, on va te donner le certificat de sélection qui va te permettre éventuellement d'avoir la citoyenneté canadienne. C'est ça le programme PEC, là.
Exact.
C'est une espèce de voie rapide vers la citoyenneté.
On veut aussi recruter 550 spécialistes des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle.
Ministre de la Justice, Mme Sonia Lebel, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole.
Merci, tout le monde. Mais d'abord, vous dire que le masque que j'ai aujourd'hui, là, qu'il ne faut pas le toucher, c'était fabriqué par... vous voulez prendre une photo? C'était fabriqué par Christine Larouche de chez Tricotine Christine à Sainte-Monique, au Lac-Saint-Jean. Donc, j'en profite évidemment encore une fois pour... demandez à tous les Québécois de porter le masque quand vous sortez de chez vous et puis, si c'est possible, d'acheter un masque qui est fait au Québec. Aujourd'hui, comme vous le voyez, en plus du Dr Arruda, j'ai de la belle visite, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui va venir, après moi, là, vous parler de la réouverture des palais de justice, qui va vous parler aussi. Il y a évidemment très peu de bons côtés à la pandémie, mais un des bons côtés, c'est que ça a accéléré la modernisation des façons de faire, entre autres d'un palais de justice. Donc, beaucoup plus de salles, de cours qui sont virtuelles. Donc, elle va aussi vous parler de ça parce qu'on va en profiter pour poursuivre dans cette direction-là. Bon, vous avez eu le bilan ce matin. Vous voyez quand même, il y a des bonnes nouvelles. L'indicateur qui est le plus important, le nombre d'hospitalisations. Depuis une semaine, il y a une baisse de 173 personnes qui sont hospitalisées pour la COVID-19. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Pardon. Par contre, bon, là où ça continue d'être difficile, c'est le nombre de décès. 74 décès. C'est important quand même de regarder encore une fois qu'on a deux mondes. Sur les 74 décès, il y en a 70. C'est des personnes qui vivaient dans des résidences, donc ça soit des CHSLD, des RPA ou des ressources intermédiaires. Donc, 4 qui vivaient dans des maisons. Donc, 4 qui sont dans la communauté. Donc, ça veut dire, et puis je pense qu'il va y avoir bientôt des rapports là, qui vont être déposés par l'Institut, qui vont vous montrer que ça va bien quand même. Même à Montréal, là, la transmission dans la communauté est moins grande. Et donc, la situation va bien à l'extérieur des résidences pour personnes âgées. Je veux revenir, bien sûr, sur les résidences. Malheureusement, c'est encore difficile dans les résidences. Puis je veux faire un petit peu le point. Vous savez, on a 3 types de résidences, les CHSLD, les RPA pour les personnes qui sont un peu plus autonomes, puis les ressources intermédiaires aussi avec la plupart des personnes un petit peu plus autonomes que dans les CHSLD. Au total, il y a 2600 résidences. Hier, on en avait 340 qui étaient avec au moins un cas infecté, 2725 personnes qui sont encore infectés. On est monté, maintenant jusqu'à 5 000, donc on est à 2 700. Puis si je regarde juste les CHSLD, parce que c'est là qu'on a les personnes les plus vulnérables, donc les personnes qui sont les plus à risque de conséquences graves suite à la COVID-19, sur 412 CHSLD qu'on a au Québec, il y en a 131 qui sont infectés. Il y a 1741 personnes qui sont infectés. Si on regarde les CHSLD qui sont plus critiques, donc ceux qui ont plus que 15% de cas, il y en a 41 CHSLD. Donc, c'est ces 41-là qu'on suit particulièrement de proche. Donc, évidemment, je veux revenir, puis je vais revenir au cours des prochains jours sur la proposition qu'on fait pour aller chercher 10 000 préposés de plus dans les CHSLD, 10 000 personnes qui commenceraient une formation à la mi-juin, donc dans 2-3 semaines. Et je veux dire, vous allez voir, là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une campagne de publicité, il va y avoir un site web ou des sites web pour les différents centres de formation professionnelle dans les différentes régions du Québec. Mais je veux revenir d'abord sur le salaire, qui est intéressant. On parle d'emploi à temps plein, donc avec tous les avantages sociaux, fonds de pension et autres, un salaire de 49 000 $ par année, suite à une formation qui s'étalerait donc de la mi-juin à la mi-septembre, 3 mois, pendant lesquels les personnes recevraient un salaire de 760 $ par semaine. Donc, je pense que c'est quand même une offre qui est intéressante du côté monétaire. Mais, aujourd'hui, je vais essayer de prendre quelques minutes pour essayer de convaincre des gens qu'il n'y a pas juste l'aspect monétaire qui est important. C'est beau ce qui peut se passer dans des CHSLD. Évidemment, on est dans une situation où, je l'ai dit, là, même avant la pandémie, il nous manquait 10 000 personnes. Donc, c'est moins agréable. Les préposés peuvent prendre moins de temps avec les patients. Mais Ce qu'on vise, ce que je vise, puis je pourrais mettre les Québécois de tout faire ce que je vais être capable de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on ait assez de personnel, pour qu'on soit capable d'établir cette relation qui est importante avec les résidents et les résidentes. Par hasard, et puis je veux y revenir, je sais que j'en ai parlé sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais par hasard, j'ai lu, il y a quelques semaines, le dernier roman qui a été publié l'année passée de Marie Roberge, Marie Laberge, quand je dis c'est un hasard, c'est pas un hasard que je la lise, là, j'ai tout lu ce qu'elle a écrit, mais c'est un hasard qu'elle a écrit sur les CHSLD. Donc, l'histoire se passe entre une préposée aux bénéficiaires et une résidente en particulier. Il y en a d'autres, là, mais se développe une belle complicité. Puis, c'est ça qu'il faut essayer de viser dans nos CHSLD. Donc, de donner le temps, d'avoir le temps de prendre soin des résidentes. On le voit dans l'histoire de Marie Laberge. Il y a une belle complicité, une confiance, des échanges. Il y a des conseils. La personne qui est plus âgée, la résidente, donne des conseils. La préposée prend ça en note. Puis bon, après son décès, va relire tous les conseils qui ont été donnés. Mais c'est ça qu'on veut, qu'on voudrait voir, là. Avoir le temps de mettre une débarbouillette fraîche sur le front, masser les jambes, puis surtout parler, prendre le temps avec une résidente ou un résident en chaise roulante, de l'amener à l'extérieur, aller prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Donc, je veux juste dire, ceux ou celles qui hésitent à s'inscrire dans les 10 000 places qui vont être offertes, là, je vous invite à lire le livre de Marie Laberge. Puis j'espère que ça va vous convaincre que ça peut être très valorisant, ce travail-là. Et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, bien, engagez-vous. Je veux dire un mot aussi sur les résidences privées. J'ai beaucoup entendu là, depuis hier des responsables de résidences privées étaient un peu inquiets qu'une partie des 10 000 personnes qu'on va former viennent de résidences privées. C'est possible, mais il faut comprendre deux choses. Bon, d'abord, nous, on veut des personnes qui ne sont pas formées comme préposées aux bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de danger, là. Les gens qui était déjà préposé aux bénéficiaires puis qui aurait eu intérêt à transférer au public. Dans la plupart des cas, ils l'ont déjà fait. Donc, il n'y aura pas de nouveaux cas de ce côté-là. Puis, pour ce qui est des personnes non formées, bien là, on va en former 10 000. Et ce que je veux dire aussi aux gens qui sont responsables des résidences privées, c'est qu'on est en train de regarder, là. Vous savez, on a mis des incitatifs, là, le 4 $ de l'heure. On est en train de regarder d'abord pour de l'aide financière. Parce qu'on comprend bien, là, oui, on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur public de 21 à 26 $ de l'heure. Bien, c'est sûr que les préposés du côté du privé, il va falloir que les salaires augmentent. Donc, il va falloir que le gouvernement donne un coup de main, puis on est ouvert à donner un coup de main. Il y a une autre chose aussi qui est importante de spécifier. Par exemple, dans les RPA, les personnes, la majorité des personnes sont beaucoup plus autonomes que les personnes dans les CHSLD. Donc, on va augmenter l'offre de services dans les soins puis les services à domicile. Quand on dit services à domicile, ça inclut les résidences. Donc, on est conscient là, qu'il faut en faire plus, nous, le gouvernement, pour offrir des soins et des services à domicile dans les résidences privées. Donc, ça aussi, en plus des incitatifs, de l'aide financière, ça va aider. Donc, je conclue en disant, bon, oui, il y a deux mondes. Oui, il y a encore du travail à faire dans les CHSLD. Oui, on a besoin de 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. Si on regarde à l'extérieur des CHSLD, donc dans la communauté, la situation va bien. Sonia, tantôt, ou Madame la ministre de la Justice, il y en a qui n'aiment pas ça quand je tutoie les hommes, les femmes. Hein, donc Madame la ministre va nous parler de déconfinement des palais de justice. Là, bon, hier, on a eu les campings. On regarde, c'est pas encore fait, là, qu'est-ce qu'on va faire avec les restaurants, qu'est-ce qu'on va faire, ce qui n'est pas ouvert. Mais si on veut être capable de continuer la réouverture, il faut suivre les consignes. C'est important. Il faut que tout le monde soit responsable. Il ne faut pas avoir de faux sentiments de sécurité parce qu'il fait beau. Faut pas se penser trop bon parce que le virus va en profiter pour revenir. Donc, c'est important de garder le 2 mètres, le 6 pieds avec les autres personnes, se laver les mains avec du savon régulièrement, puis porter un masque comme on le fait quand vous sortez de chez vous, surtout quand vous êtes dans le transport en commun ou dans les commerces, là, porter un masque. Donc, dans ces situations-là. Donc, je vous remercie à l'avance pour votre support. Good afternoon.
OK. Je te le dis qu'il veut recruter le PM. Hein? Allez lire le livre de Marie Laberge. D'ailleurs, tu as trouvé le titre. Bravo.
Oui, Traverser la nuit, donc le dernier roman de Marie Laberge. Il dit qu'il a tout lu de Marie Laberge et espère, en fait, avoir des gens comme il a lu dans ce roman-là, un contexte aussi, c'est-à-dire où on a le temps de pouvoir mettre une petite débarbouillette en temps de canicule, prendre le temps de parler avec les préposés et même de lui aider à passer la nuit, à traverser la nuit, d'où le titre de ce roman de Marie Laberge.
J'ai trouvé ça très beau, ce passage de son point de presse. Puis j'avais dit la même chose de Justin Trudeau à Tout le monde en parle quand il avait parlé comme père de famille. Qu'est-ce qu'il ferait là, par rapport à la réouverture de l'école? Est-ce qu'il retournerait ses enfants ou pas? J'aime ça quand nos hommes et nos femmes politiques montrent leur humanité. Et là, François Legault, je trouve, quand il parlait de l'espèce de vocation, hein, d'être un préposé, de s'occuper de notre monde avec quasiment affection, ouais. Lui masser les jambes, l'amener à l'extérieur, prendre une petite marche. J'ai trouvé ça très, très beau, moi.
Oui, parce qu'il a parlé encore une fois de ce que les gens pourront toucher pendant la formation, c'est-à-dire 760 $ par semaine. Bon, puis si on devient préposé, 49 000 $ par année. Mais il a dit, ce n'est pas simplement de l'argent, c'est une vocation, un peu comme les enseignants. Effectivement, il faut faire ça, faut se donner. Hein. C'est des emplois où on se donne,
oui.
C'est des rapports humains.
Oui.
Et il ne faut pas juste penser à l'argent parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et il faut dire que ça va bien un peu partout au Québec, sauf dans les CHSLD où la situation est encore critique. 2725 personnes qui sont encore infectées dans 340 résidences sur 2600.
Voilà.
Alors, c'est encore fragile à ce niveau-là.
Tout à fait. On va aller rejoindre Sonia Lebel, la ministre de la Justice, qui va annoncer des mesures pour déconfiner les palais de justice. J'ai peur que ce soit un petit peu technique, mais on fait un bout avec elle. Puis s'il faut, on reviendra pour continuer un petit peu avec Julie-Christine avant la période des questions. On écoute Sonia Lebel.
À quel point on a eu une excellente collaboration de tous les juges, de tous les tribunaux confondus, des avocats de la défense, du barreau, du DPCP. Le ministère a travaillé de plein pied pour qu'on soit capable, dans les dernières semaines, de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire. Naturellement, il y a eu un ralentissement compte tenu du fait qu'on a dû physiquement fermer plusieurs palais de justice. Les causes urgentes ont procédé, mais on a quand même été capable de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire qu'on a été capable également d'accélérer ou d'augmenter graduellement au cours des dernières semaines par la part des nouvelles technologies. Le contexte de la crise sanitaire, naturellement, occasionne plusieurs défis pour le système de justice, ne serait-ce que des inventaires qui sont des dossiers en attente d'être traités présentement qui sont dans les greffes des palais de justice. Donc, j'ai décidé également de relancer la table de Justice Québec. C'est une instance de concertation qui regroupe les principaux acteurs, justement, du système de justice, qui ont travaillé très fort ensemble. Cette table a aussi servi à l'époque, dans la foulée de l'arrêt Jordan, à trouver des solutions pour répondre aux défis des délais judiciaires. Donc, cette table commencera ses travaux dès juin, dès maintenant, pour nous aider, justement, à traverser les délais ou les défis que cette crise sanitaire nous aura occasionnés. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, ça pose des défis, des enjeux pour le système de justice, mais ça a également créé d'heureuses opportunités. D'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Donc, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui se devait se continuer sur 5 ans. La transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée sur certains aspects par la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créé la crise sanitaire. Donc, au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions qui vont permettre au système de justice de servir encore mieux les citoyens. Donc, la reprise graduelle se basera, oui, en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux. Il y aura également, il y a 136 salles virtuelles, d'audiences virtuelles qui ont été créées dans les dernières semaines, qui fonctionnent, qui ont été expérimentées. Vous avez tous entendu parler du procès virtuel qu'il y a eu à Trois-Rivières il y a quelques semaines. On a entendu parler de celui-là, mais ce n'était que le premier, ça n'a pas été le dernier. Il y a eu une journée où 90 salles fonctionnaient à la fois, donc on a réussi à augmenter les activités judiciaires grâce à ça. Et c'est donc un acquis pour le système de justice. La justice au Québec ne redeviendra plus ce qu'elle était. Ce virage technologique n'est pas terminé, mais il est sérieusement entamé par la nécessité que cette crise a créée. J'en suis, je vous le dis, très fière. Les acteurs se sont mobilisés et on a réussi de façon très rapide à atteindre ces objectifs-là. Donc, les palais de justice, pour assurer les gens, ce sont des lieux physiques qui vont être aménagés. On a eu des consignes de l'INSPQ, donc un peu à l'instar de ce qu'on voit ici à l'Assemblée nationale, des aires de circulation pour les aires communes, de la distanciation dans les salles de cours. Donc, il y aura naturellement d'un nombre limité d'accès, dépendamment de la grandeur de la salle, pour respecter le 2 mètres, des plexiglas pour la greffière, le juge, les acteurs du système de justice. Et naturellement, c'est à géométrie variable, dépendamment des dispositions des salles, mais du désinfectant est disponible pour les gens. Donc, des mesures de distanciation, de sécurité sanitaire, les palais de justice ont été adaptés et c'est important pour les gens de comprendre que les justiciables, on a leur sécurité. Les gens qui travaillent dans les palais de justice, on a leur santé, leur sécurité à cœur. Alors, les mesures ont été prises et les palais de justice seront prêts pour le 1er juin. Également, les tribunaux administratifs ont reçu les mêmes consignes de pouvoir reprendre graduellement les activités judiciaires. Le tribunal administratif est responsable de son tribunal, donc devra adapter également, mais ils ont reçu les mêmes consignes que l'INSPQ a émis pour les tribunaux. Reprendront leurs activités également graduellement à partir du 1er juin et ce sera chacun des tribunaux administratifs qui aménagera et décidera du rythme qu'il est capable d'absorber naturellement en respect des consignes sanitaires. Donc, merci. L'annonce d'aujourd'hui, pour moi, est essentielle pour le système de justice et je vais terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires du système de justice, avocats, juges, personnel des palais de justice, personnel de soutien qui ont contribué là, au maintien des activités qui vont faire en sorte que cette reprise-là sera un succès. Merci.
Très bien. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Fanny Lévesque, La Presse.
Bonjour. Monsieur Legault, vous avez parlé que vous êtes ouvert à offrir une aide là, aux résidences privées qui craignent de voir un exode justement de leurs travailleurs vers le secteur public. Madame Blais a parlé ce matin que le gouvernement examinait la possibilité d'aller avec un décret pour adopter un salaire plancher. De façon plus précise, là, de quelle aide on parle vraiment au gouvernement? Et qu'est-ce qui est le plus probable là, d'arriver? Est-ce que c'est de garder les primes? Est-ce que c'est d'offrir une subvention ou une aide supplémentaire ou d'aller avec un décret?
Bien, on est en train de regarder différents scénarios. D'abord, je vous dirais, j'aimerais bien savoir sur les 10 000 étudiants, combien vont venir des résidences privées. Aussi, quels sont les besoins des résidences privées? Parce que, bon, si une personne n'avait pas de formation dans une résidence privée, là, vient obtenir une formation, bon, on sait qu'il y a un taux de chômage, malheureusement, qui est élevé au Québec. Donc, de trouver des gens sans formation, ce qu'on peut dire des bras, là, c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était il y a 3 mois. Là. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder avec les résidences privées. Bon, Vous le savez aussi, on est en train de regarder la possibilité de convertir certaines résidences privées en résidences publiques, surtout du côté des CHSLD. Je pense que le ménage un petit peu qu'on a à faire, c'est de voir une personne là, qui a besoin de beaucoup de soins devrait être dans un CHSLD, puis idéalement un CHSLD public. Il y a des personnes qui sont entrées dans des RPA au moment où ils étaient très autonomes, mais qui ne veulent pas déménager dans un CHSLD une fois qu'ils sont rendus beaucoup moins autonomes. Donc, est-ce qu'on offre les mêmes services dans les RPA ou est-ce qu'on force, entre guillemets, ces personnes-là à aller dans les CHSLD? Je pense que c'est tout ça là, qu'il faut regarder, mais de façon générale, il va falloir accepter le fait que, puis on a eu notre leçon, tout le monde, là, pendant cette crise-là, qu'il faut beaucoup mieux payer nos préposés aux bénéficiaires, qu'il faut en avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui ont la formation pour mettre l'équipement de protection individuelle, qui sont capables aussi de bien comprendre les consignes, les directives pour éviter les contaminations, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder, puis honnêtement, on ne pourra pas avoir une réponse là, dans les prochains jours. Par contre, les primes qui sont là, incluant dans les résidences privées, bien, sont là pour rester encore un bon bout de temps, le temps qu'on ait fait justement cette analyse.
Parfait. Au sujet de l'armée canadienne, hier, Ottawa, le ministre de la Défense a mentionné que c'était pratiquement impossible de prolonger une intervention de l'armée canadienne au même rythme, là, de façon aussi intensive qu'actuellement, jusqu'au 15 septembre, comme vous le demandez. C'est quoi le plan B si l'armée se démobilise à la mi-juin?
Bon. D'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait peut-être réduire le nombre. Donc, ça veut dire qu'il pourrait en avoir peut-être un certain nombre qui reste à plus long terme, donc ou à plus moyen terme, je peux dire. J'ai une rencontre téléphonique, comme à tous les jeudis soirs, avec Justin Trudeau ce soir. Je sais que l'Ontario aussi veut garder les militaires dans leur centre de soins de longue durée plus longtemps. Bon. Il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des travailleurs qui étaient absents. On est monté jusqu'à 12 000, on avait 10 000. Là, on est rendu à 9 279. Juste hier, il y en a 458 qui sont revenus de leur congé de maladie. Donc, il y a une belle tendance de ce côté-là. On va peut-être aller mieux, plus vite qu'on pensait. Donc, ça pourrait peut-être nous permettre de remplacer, si jamais le gouvernement fédéral ne peut pas laisser tous les soldats dans les CHSLD.
On poursuit avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Vous allez les prendre où, ces 10 000-là? Là, parce que je comprends là, que vous dites qu'il y a d'autres secteurs où il y a eu des pertes d'emplois. Je comprends tout ça. On a vu aujourd'hui que l'immigration, c'est pas la panacée, là, parce que le programme, il permet 550 personnes maximum. Donc, on est loin du compte. Vous allez les prendre où, ces gens-là, M. Legault, pour qu'ils viennent travailler dans le réseau, dans un si court laps de temps?
Bon, bien, vous voyez, là, il y a un taux de chômage là, d'au moins 7-8 %. Donc, il y a beaucoup plus que 10 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Les conditions ou les qualifications qu'on demande, bon, idéalement, c'est d'avoir un secondaire 5. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui répondent à cette exigence. Je pense que c'est un travail qui est relativement bien payé. Quelqu'un qui gagnait moins que 26 de l'heure, qui se fait offrir une job à temps plein du gouvernement, dans le fond, à 26 de l'heure, je pense que c'est attrayant. Maintenant, le principal défi qu'on a, c'est ce qu'on va essayer de regarder avec la publicité qu'on va commencer la semaine prochaine, c'est de convaincre les gens qu'en ajoutant 10 000 personnes, la qualité, les conditions de travail vont être meilleures dans les CHSLD. Donc, il va y avoir un peu plus de temps pour les préposés qui veulent accompagner une résidente à traverser la nuit parce qu'elle a de l'anxiété. Donc, de mieux s'occuper de chaque personne. Donc, moi, je pense que ça peut être très valorisant. Moi, j'ai confiance qu'on va en trouver dans la population.
OK. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés aux bénéficiaires? Parce qu'il y en a là qui, quand on suit la formation normale, c'est 870 heures, je pense. pour avoir la certification. Là, vous allez les créer, vous allez leur donner cette certification-là, mais en formule accélérée, 300 heures. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés aux bénéficiaires? Certains qui vont avoir une formation de 870 heures, les autres 300 heures, pour avoir le même salaire en bout de ligne.
Oui. Bien, écoutez, nous, on pense qu'à l'intérieur de 3 mois, on est capable de donner une formation de base, une formation aussi qui est... Vous savez, les préposés aux bénéficiaires, il y en a qui font beaucoup de choses dans les hôpitaux. Là, on veut vraiment des préposés aux bénéficiaires qui vont travailler dans les CHSLD. Donc, on pourra se concentrer sur la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Puis, bon, si vous comptez le nombre d'heures quand même qu'on peut avoir dans 3 mois, puis éventuellement aussi poursuivre l'entraînement pendant le travail, moi, je pense qu'on est capable, en 3 mois, de former des gens qui vont être compétents pour agir comme préposés aux bénéficiaires. Pardon?
Qui vont avoir la même qualité que ceux qui vont avoir fait 870 heures.
Ils vont être capables de bien faire le travail qu'ils ont à faire dans les CHSLD.
Prochaine question, Mathieu Dion, Radio-Canada.
Bonjour à vous trois. Juste revenir sur l'armée. Oui. Vous êtes un peu désespéré de trouver du monde. Toutes les mesures que vous annoncez vont en ce sens-là. Et là, l'armée, vous lui demandez de rester encore quelques mois, mais on vous dit ça ne sera pas possible. Est-ce que ça vous déçoit quelque part?
Bien, écoutez, le Québec paye sa part pour l'armée. Je comprends qu'il y a d'autres priorités, mais il me semble que la priorité actuellement, j'en vois pas de plus urgente que de s'occuper de notre monde dans nos CHSLD, puis même chose dans les centres de soins de longue durée en Ontario. Là. Je comprends là, qu'il y a peut-être un rythme de travail qu'il faudrait revoir. Je voyais que certains soldats travaillent 7 jours par semaine, mais ils pourraient peut-être travailler 5 jours par semaine. Il y a des accommodements. Moi, j'espère être capable d'en discuter avec le gouvernement fédéral et l'armée.
J'aimerais vous parler de l'industrie touristique, parce que hier, il y a un discours à la santé publique où on vous dit « on ne vous recommande pas de vous déplacer entre les régions ». Puis le discours politique, on vous dit « ben c'est pas recommandé, mais c'est pas interdit non plus ». Donc, le Montréalais là, qui veut aller, par exemple, en Gaspésie, là, il écoute le politicien ou la santé publique?
La santé publique. Je vous laisse aller.
Et, comme on vous l'a dit, la situation, elle est fragile encore dans la région métropolitaine. Puis, ailleurs, dans le Québec, il n'y a pas de transmission trop communautaire. Je pense que ce qu'on dit actuellement, c'est que pour les besoins les plus essentiels, on vous recommande d'y aller. On sait que le tourisme, ça peut faire interpréter pour certains comme étant quelque chose d'essentiel, puis etc. Il y a comme un dosage à faire. Autant que faire se peut, moi, je recommande à ce que les gens restent le plus dans leur univers, compte tenu, je vous dirais, de la haute transmission dans la région métropolitaine, c'est ce qu'on dit. Mais on n'ira pas faire la barricade pour empêcher nécessairement quelqu'un. Vous comprenez, c'est une chose qui est pas simple parce que donner une ligne de conduite, allez-y, on revient à la normale comme d'habitude, ben là, on va créer un engouement important. Surtout que aussi, faut comprendre que les gens vont pas à l'extérieur du Québec, ce qui est une bonne chose pour l'économie québécoise. Mais en même temps, ça peut augmenter la quantité de personnes qui vont se déplacer d'une région à l'autre. J'aimerais ça pouvoir répondre à cette question-là dans à peu près 1 ou 2 semaines. Puis là, vous allez me dire, il est tard dans 1 ou 2 semaines. C'est parce qu'on est vraiment, je vous l'ai dit, à Montréal, en train de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Je suis plus prudent que passé, de par le fait que je sais que ma prescription n'est pas suivie à 100%. Elle va être suivie à un moins grand pourcentage. Fait que là, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le fond, soyons un peu patients. S'il n'y a pas d'autres alternatives, c'est une chose. Si vous allez voir quelqu'un parce qu'il est dans votre famille, etc., c'est une chose. S'il y a des alternatives, essayez de planifier autre chose. Mais on va vous revenir dans à peu près 2 semaines. Là. Je vous dirais qu'on va avoir vu que l'effet du déconfinement dans la région métropolitaine, je vais me sentir plus sécure.
Mais avez-vous rouvert l'industrie touristique trop tôt?
OK. Donc, c'est intéressant, Horacio Arruda qui nous dit, là, nous, les gens de la grande région de Montréal, on préférerait... Si vous êtes pour aller en vacances, que vous ne vous déplaciez pas dans une autre région. On ne va pas vous barrer le chemin avec une police, là, mais on aimerait mieux que vous ne le fassiez pas parce qu'on est en train de surveiller ce qui se passe à Montréal et peut-être que dans 2 semaines, On nous dira si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas trop de propagation du virus. On nous dira, OK, vous pouvez vous promener d'une région à l'autre, aller où vous voulez dans le Québec. Mais pour le moment, ils ne sont pas prêts à nous donner le go. Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Qu'est-ce que tu retiens de ce point de presse?
Juste avant qu'on se retrouve en onde, toi et moi, j'ai été très intéressé par ce qu'il a dit à propos de la présence des militaires au Québec. Parce que, comme tu sais, il a demandé à ce que le déploiement militaire se poursuive jusqu'à la mi-septembre, à quoi le ministre de la Défense a répondu qu'il serait peut-être pas capable de se rendre jusque-là avec le même niveau, la même intensité.
Exact.
Et là, bon, c'est pas clair ce que ça veut dire, hein. Ils l'ont pas dit, ça veut pas, ils ont pas encore dit on va réduire de moitié, ils ont pas, enfin, c'est pas clair.
Non.
Et là, Monsieur Legault est allé, le Québec paye sa part pour l'armée.
Oui, oui.
Et je connais pas de plus importante priorité que d'aider au Québec et en Ontario dans les résidences pour les aînés. Mm. Oh boy! C'est assez direct, merci.
Oui, oui. Puis ce qui est intéressant, c'était de voir le visage de François Legault pendant qu'il disait ça.
Ouais,
tu sentais, Luc.
Qui se retenait.
Oui, exact. Puis tu sens que ça l'agace. Ça l'agace le fait que Justin Trudeau ne s'engage pas à maintenir les militaires jusqu'à la mi-septembre. Tu sens que ça l'agace.
Ah, c'est clair. Et évidemment, c'est rendu que c'est une cérémonie quotidienne. On vient nous annoncer que ça va pas encore bien dans les CHSLD, puis dans les résidences privées, puis tout ça. Bon, sa grande campagne de recrutement. Là, il annonce qu'il est ouvert à aider le secteur privé, là, ceux qui ont des résidences privées, à faire monter les salaires pour qu'il n'y ait pas justement un exode de gens qui partiraient aller prendre les fameux cours à 21 $ de l'heure pendant 3 mois, puis avec une job garantie à 26.
Exact.
Ça va être, j'imagine, de la musique aux oreilles des propriétaires de ces lieux-là. Parce que, évidemment, ça risquait de se produire. Ils payent 15-16 $ de l'heure. L'autre, il dit, je vais te donner 21 pour une formation.
C'est
qu'est-ce
sûr.
Que tu vas choisir?
C'est
qu'est-ce
sûr.
Que tu vas choisir?
Absolument.
Il va falloir égaliser les chances pour tout le monde. Et il essaie de trouver des bonnes nouvelles dans les chiffres qui sont pas des bonnes nouvelles, dans le fond, là. 74 morts de plus, 543 cas de plus. Mais il dit, tu vois, il y en a eu 70 des 74 que c'est dans des résidences pour aînés. Et il nous dit, en gros, qu'il en reste quelque chose comme 2500 qui sont présentement atteints dans ces résidences-là. Je te dis que c'est une façon de nous dire qu'il y en a la moitié qui va mourir, ou j'ai pas trop compris.
Ouais, ben je sais pas c'est quoi le taux d'ailleurs, faudrait vérifier ça. Quel est le taux des personnes qui ont 70 ans et plus, mettons, qui sont infectées et qui décèdent? On a l'impression, quand on lit les journaux puis quand on écoute les médias, on a l'impression que c'est une majorité. C'est pas vrai, ça, Luc, là.
Non, c'est pas une majorité.
François Marquis m'avait dit, là, hey, attends un peu, là, c'est moins de 20 % là, des personnes de 70 ans et plus qui sont infectées à la COVID, là, qui décèdent.
Oui, Bernard, mais à 80 et plus, ça monte beaucoup plus haut, là. Je l'ai pas devant moi, mais c'est dans le 40 %, là.
Oui, voilà.
Mais t'as raison, là. C'est pas vrai que parce que t'es atteint, ou tu vas mourir,
là.
Non. Il n'y a pas d'équation comme celle-là.
Exact.
Et je voulais juste souligner le livre de Marie Laberge. Moi, j'ai bien aimé lire la trilogie de Marie Laberge, là. Et bon.
Est-ce que tu as lu ce livre-là?
Celui-là, non. J'ai même pas pu voir le titre. Tu l'as
vu, Traverser la nuit.
Traverser la nuit. C'est son dernier, paraît-il.
Oui.
Alors, elle a un talent de raconteuse qui est absolument exceptionnel. Je pense que ça vaut la peine. Hein? Puis, les gens qui se demandent s'ils devraient aller travailler là, peut-être qu'ils ont raison. Faites donc un peu de lecture, on a le temps. Là.
Directeur.
Ça vaut la peine.
Très bien. Luc, on se reparle vers... on va se reparler avant la fin de l'heure parce qu'on va aller faire un petit tour du côté des États-Unis où il y a des manifestations contre le décès là, de cet homme afro-américain là, qui a été tué par un policier. Qu'est-ce que tu veux? C'est épouvantable ce qui s'est passé.
C'est d'un sadisme. Ah!
C'est épouvantable. Alors, on va en parler un peu plus tard. Je te salue.